Devine qui vient dîner. Michel Durand-Vallon.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous ne voulons pas d'un monde où la garantie de ne pas mourir de faim se paie par le risque de mourir d'ennui. C'est un de mes slogans absolument préférés, parce que vraiment ça a de la gueule. C'était parmi beaucoup d'autres d'ailleurs, l'un des slogans de Lausanne Bouge, dont nous pourrions fêter d'une manière ou d'une autre le 30e anniversaire. En effet, cette révolte d'une jeunesse lassée qu'on lui dicte sa manière de vivre, sans jamais répondre à ses besoins, s'est tenue à Lausanne entre octobre 80 et février 81. Une ambiance de mai 68, paraît-il, j'y étais pas, mai 68, mais 12 ans plus tard, il n'y a pas le feu au lac, dirait un Français, qui débouchera sur le cabaret Orwell, puis sur la Dolce Vita un peu plus tard, deux lieux évidemment hautement symboliques de ces révoltes des années 70, puis viendront les terribles années 80, celle du réveil douloureux. Mais enfin, c'est une autre histoire. Je veux dire que je n'ai pas vu beaucoup de propositions festives ou commémoratives autour de ces événements, ce qui me surprend parce que j'ai le sentiment tout de même que cette période a changé pour toujours les rapports entre jeunesse et bourgeoisie en ville de Lausanne et un peu partout ailleurs. Sinon, la sortie en DVD d'un film tourné bien après les événements, en 1996, trois portraits de trois jeunes femmes qui furent, sinon des piliers de ces revendications politiques, elles n'étaient pas a priori très politisées, mais elles représentaient cet emblème de la révolte, parce que ces trois jeunes femmes furent, parmi d'autres, des punks. Bonsoir Denise Gillian.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes la réalisatrice de ce film, Femmes du No Future. Il sort en DVD. Vous le sortez en DVD par souci de rappeler ces années de révolte, de rébellion, d'exigence, oui, au-delà des 30 ans, évidemment.
Oui, moi j'avais des envies de commémoration comme ça, et j'étais étonnée comme vous qu'il n'y ait pas de fête, d'événements qui soient organisés.
Ouais.
Alors peut-être qu'on le fera justement à la sortie, à l'occasion de la sortie de ce DVD.
Oui, il faut se dépêcher parce que
au printemps.
Oui, c'est ça, c'est maintenant, hein.
Ouais.
C'est vraiment maintenant l'anniversaire.
C'est cette année.
Ouais. Vous l'expliquez comment? Par une forme d'apathie, par une forme d'absence absolue de combativité, d'une chape qui se serait comme ça répandue sur les cœurs, les têtes?
Non, je crois pas.
Non,
je me disais,
vous êtes rassurante.
Les gens qui étaient politisés à ce moment-là, oui. En fait, sont très occupés. Il y avait Anne-Catherine Ménétret, il y avait Alain Bottarelli, il y avait Marlène Beninos, qui sont encore des gens très actifs. Oui. Hein, si je pense à Anne-Catherine Ménétret, elle est complètement dans l'actualité.
Bien sûr, oui.
Voilà, et investie. Donc je me suis dit, ils ne doivent pas avoir le temps. Et les autres qui étaient là pour manifester, tous les jeunes en fait, qui étaient directement impliqués dans la rue, n'étaient pas très politiques. Donc ça m'étonne pas forcément qu'il n'y ait pas actuellement une volonté de récupérer le discours ou de réactualiser le propos.
Puis à vrai dire, aujourd'hui, ils ont quoi, entre 40 et 60 ans?
Bah oui.
Mine de rien. Je pense en toute amitié, évidemment, mais je pense à Jean-Marc Richard, par exemple, qui a été l'un de ces animateurs de Radio Pirate pendant Lausanne Bouge, et qui aujourd'hui présente la Poule d'Or et puis les compétitions des femmes les plus belles du monde, de Suisse en tout cas, et sans critique. Mais voilà, le temps avance, les gens changent, et on va voir aussi que ces trois femmes qui, en 80, 81, un petit peu avant, sont punk, mais vraiment déterminées, elles aussi, tout doucement, ont changé. Pas perdu cette forme de révolte, elle est toujours à l'intérieur, on la sent bien, mais elles ont changé. On va parler évidemment de ce film, de votre travail, de votre vie aussi, mais auparavant j'aimerais bien que vous nous présentiez votre invité.
Alors mon invité est Anne-Laure Sailly, que j'ai choisi d'inviter parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, en particulier pour son engagement citoyen. Anne-Laure est la fondatrice de l'association Prélude, qui est un pôle de coordination d'action culturelle en prison, qui est un domaine qui me touche beaucoup. Et par ailleurs, c'est aussi la programmatrice du 2-21. Donc elle baigne dans la culture alternative plein pot, et je trouvais que c'était très en lien avec Lausanne Bouge, justement, le centre autonome et le cabaret Orwell.
Bonsoir Anne-Laure Sailly.
Bonsoir.
Alors, je vous ai posé la question comme ça en toute naïveté, parce que je vous ai regardé, mais enfin sans vous regarder, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et alors, en 80, vous étiez où? Oui, j'avais un mois, vous m'avez dit. En revanche, vous avez une jolie petite anecdote sur cette période-là, parce que vous étiez tout bébé, évidemment.
Oui, ben, j'avais un mois. Non, c'est que J'ai participé indirectement dans la mesure où ma maman s'est fait gazer alors qu'elle m'allaitait. Et que du coup, je pense que j'ai
eu des stigmates.
Pendant deux jours, j'ai pas eu accès au lait maternel.
Ah, traumatisme.
Qui était vicié par tout ce remue-ménage. Oui, je pense que oui. Je pense qu'il y a une trace quelque part en moi.
Mais alors, on a dit qu'effectivement, il se passait bien peu de choses autour de cet anniversaire possible. Alors, vous n'étiez donc à l'évidence pas du tout actrice de cette période de révolte. En revanche, vous êtes engagée. Ça ne tenterait pas des personnes de votre génération, de celles qui n'ont pas connu, mais qui éventuellement auraient des revendications, auraient envie de réanimer une espèce d'esprit de révolte, de prendre en main des choses comme celle-là, ce genre d'anniversaire, de dire, allez, on imagine quelque chose.
Mais je pense, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les punks, le mouvement punk existe encore.
Mais il n'y avait pas que des punks dans Lausanne Bouge. Hein.
Ouais, effectivement, mais il y a une filiation avec tout ce qui existe aujourd'hui, tous ces mouvements liés à l'espace autogéré, par exemple à Lausanne.
Oui. Anciennement, Dolce Vita, etc.
Voilà. Après, il y a des ruptures, ce n'est pas les mêmes protagonistes, il y a différents courants quand même. Mais où, pour les ce qu'on appelle grossièrement les alternos, pour faire court, voient dans le mouvement, donc qui ont mon âge ou moins aujourd'hui, voient quand même dans Lausanne Bouge et dans tout ce mouvement, un mouvement qui était, comme Denise vient de le dire, peut-être pas suffisamment politisé, avec des revendications peut-être qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui, avec la revendication de l'Est,
d'un centre.
Et l'envie de plus se confiner à un lieu, mais à la revendication d'un mouvement qui revendique vraiment qui a des revendications de l'ordre du droit de vivre. Ça, c'est une filiation qui reste, mais de vivre quand même dans une forme, une logique, avec des droits, au logement notamment. Enfin, on a le droit d'habiter.
Avec une forme de liberté de choix, en fait.
Voilà, exactement. Ouais.
Quelles seraient aujourd'hui les revendications d'ailleurs ? Moi, je suis par nature légèrement éloignée des mouvements de jeunesse. Mais vous les côtoyez, forcément, vous côtoyez en plus des artistes, des créateurs. Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui ? Qu'est-ce qui manque ?
Je ne sais pas ce qui manque. Par contre, je sais qu'il y a une forme de résistance à toute une série de phénomènes qui sont... Enfin, lié à l'actualité, il y a une revendication de désobéissance civile, de ne pas vivre dans le système, d'occuper des lieux qui sont inoccupés alors qu'une crise du logement.
Des squats, etc.
Voilà, ouais. D'ouvrir des refuges pour les sans-papiers, c'est toute une série comme ça de démarches. Et puis après aussi les lieux qui proposent des concerts, des bars, alors qu'il n'y a pas de patente, de ne pas rentrer dans toutes ces choses
dans toutes ces contraintes,
super normées, voilà, et puis qui sont pas en accord avec ce dont on a vraiment besoin. S'insurger aussi quand on essaie de résister au consumérisme, à toutes ces choses-là. C'est pas évident, mais il y a un moyen de tenter de résister.
Comment s'est faite la rencontre entre vous deux ?
Alors, c'était très joli. Anne-Laure m'a appelée un jour, je ne sais plus en quelle année c'était, 2005, je pense. Ouais. Ouais. Je reçois un coup de fil d'Anne-Laure que je ne connaissais absolument pas, qui me dit j'aimerais monter une association, un pôle de coordination d'action culturelle en prison en Suisse, mais je veux voir un peu ce qui s'est fait. Et moi, je venais de terminer un film qui s'appelle Mon père, cet ange maudit, sur un condamné à perpétuité qui avait commencé à peindre en prison.
C'était votre premier film, hein ?
C'était mon premier documentaire personnel, ouais. Et puis Anne-Laure avait eu vent de ce titre. Et puis j'étais bien inspirée ce jour-là, parce que plutôt que de lui envoyer le DVD ou la cassette, ce que j'aurais fait normalement, je ne sais absolument pas pourquoi, je lui dis mais venez le voir à la maison.
Non.
Ce que je fais jamais, évidemment.
Quelle étrange proposition,
Donc Anne-Laure est venue le voir à la maison. Et puis voilà.
Courageuse.
Et puis, Et c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé à discuter. Puis très vite, alors, on a trouvé des terrains d'entente. Et surtout, on a monté un projet commun qui était œil ouvert en prison. C'était un atelier cinéma qu'on a monté au pénitencier de Beauchut, en pleine des Épéaux, là.
Et qui a donné le film Article 43.
Ouais. Et on a permis à des détenus de faire des courts-métrages, quoi, de réaliser, eux, leurs propres courts-métrages.
On reparlera évidemment de ce film et de cette initiative. Vous parlez presque d'elle comme d'une sœur, d'ailleurs.
Oui, alors c'est
parce
un peu...
Parce que vous en parlez.
Oui, ouais, c'est sympa que vous le releviez. C'est vrai que c'est une petite sœur d'âme. Mm-hmm. Voilà, c'est le mot que je mettrais. Ouais.
Petit exercice obligé.
Oui.
Alors ça y est, vous êtes prête?
Oui,
j'aimerais que vous
peu.
Nous fassiez, tel que vous la percevez, le portrait de Denise Gignon.
Oui, je vais forcément... Il va être difficile de ne pas tomber dans les banalités, parce que c'est personnel et intime.
Vous n'y êtes pas obligé.
Je vais essayer. Non, alors, Denise Gillian, pour faire très bref, je pense qu'il fallait la résumer et mettre en exergue ce que je respecte le plus chez elle. C'est son autonomie et son obstination.
Ça fait sourire, voire même rire, franchement.
Il y a un optimisme en dépit de en dépit d'une lucidité qui est indéniable, et puis une espèce de volonté, de curiosité, d'ouverture d'esprit, mais sans concession. Hein. C'est pas non plus pas quelqu'un de consensuel, heureusement. Et puis une capacité un peu à s'acharner, à aller jusqu'au bout et à continuer à trouver des solutions pour essayer quand même un peu de transformer tout ça. Avec les moyens mis à disposition. Voilà.
Pas mal. Ça
ouais,
vous convient?
C'est un joli hommage.
L'optimisme obstiné, pas facile à dire. Je suis ravie en tout cas que vous soyez là et que l'on parle de ce que vous faites l'une et l'autre, et parfois ensemble d'ailleurs. On va commencer par un premier titre, c'est Nouvelle Vague. Le titre Iceberg. Je sais pas si ça veut dire... Je ne sais pas si ça veut dire ours de la glace, j'en sais rien. J'aime bien comprendre les choses, puis là, j'ai peu d'explications. Iceberg, en tout cas, Nouvelle Vague.
Nie weit.
Voilà, en fait, c'était un ours polaire qui s'ennuyait sur sa banquise. Nouvelle vague. Denise Gillian, en 1980, vous avez donc 16 ans, sans dévoiler votre âge. Alors,
Ça va, c'est facile.
Faut pas être trop mauvais en calcul pour faire rapidement. En tout cas, vous êtes pile dans la cible de ces révoltes de Lausanne Bouge. Or, vous faites un tout autre choix assez radical, c'est-à-dire puisque à 16 ans tout de même, imaginez les jeunes de 16 ans maintenant. Et dites-vous, à 16 ans, vous partez seul ? Non, pas tout à fait.
Avec une amie.
Vous partez, oui, c'est bon, donc seul, vivre à Mexico. Quel choix radical ?
Oui, c'est vrai que c'était un choix radical, mais sur le moment, je ne l'ai pas vécu comme ça. Donc, je faisais partie de ce mouvement.
Ça vous paraissait naturel de partir à 16 ans à Mexico ?
Non, pas naturel, je pense que c'était un besoin. On avait besoin de s'extraire d'une certaine forme de marginalité, adolescence très rebelle, comme ça.
La vôtre ?
Ouais. Oui. Et Nina, qui m'accompagnait également. Et je pense que ça a été une espèce d'instinct de survie, qui nous a dit « il faut qu'on parte ». Parce qu'on avait une vie, centre autonome, on était.
Vous étiez dans ces mouvances-là dans ces révoltes-là.
Ouais, ouais. Ouais. Et je pense que ça a été comme ça, une espèce de réaction, mais finalement très saine, qui nous a fait dire, mais il faut qu'on voyage, quoi, bougeons. Et on souhaitait d'abord aller aux États-Unis, mais nos parents n'ont pas voulu signer le visa pour les États-Unis, donc on a pris le pays le plus proche, qui n'avait pas besoin, d'autorisation, ouais. Et puis c'était Mexico.
Donc ça veut dire que vos parents ne voulaient pas vous laisser partir.
Non, ils n'étaient pas ravis. Ils n'étaient pas ravis. Non. Alors, ils n'ont pas posé un interdit formel. Mais évidemment, 16 ans, c'était jeune. Mais rétroactivement, alors je suis absolument ravie de l'avoir fait, parce que c'est à Mexico que j'ai découvert une certaine forme de culture, notamment la culture en prison, pour la première fois.
Oui, vous étiez... Dans quelle idée partiez-vous ? Alors, on l'a bien compris, hein, comme une espèce d'envie d'aller voir ailleurs si vous y étiez mieux, ou si vous y étiez tout court. Mais par ailleurs, qu'est-ce que vous alliez chercher là-bas ?
On n'allait rien chercher, rien. On fuyait quelque chose. Oui. Je crois que c'était vraiment ça la démarche. Donc on avait travaillé ici pour gagner de l'argent. Et dès qu'on a eu en fait 1 000 $ et le billet d'avion en poche, on est parti. Et c'était vraiment une fuite. C'était pas l'espoir de trouver quelque chose. C'était plus un besoin de bouger, un besoin de changement urgent. Et je me souviens quand on a atterri à Mexico avec Nina dans l'avion, on survolait la ville. Puis c'est immense, hein, Mexico, on survole pendant bien 20 minutes. Ouais. On est arrivé de nuit. Puis Nina me dit, mais tu parles espagnol ? Non. Et toi ? Non. T'as un plan de Mexico ?
Non.
Non. Et toi ? Non. Tu connais quelqu'un à Mexico ? Non. Et voilà, c'est dans ces conditions-là qu'on a atterri. Donc on n'est pas resté à Mexico très longtemps, on est parti en voyage 6 mois. On a tenu 6 mois en fait avec ces 1 000 $. Puis après j'ai trouvé du travail sur place, puis j'y suis restée.
Comme mannequin ?
Oui. Oui, alors c'était pas un choix. Une femme m'a arrêtée dans la rue un jour. Il me restait $50 en poche. Ça, c'est la magie du voyage, des fois, puis des coups du destin. Il me restait $50 en poche et je voulais pas rentrer. Et on zonnait dans le centre touristique de Mexico avec Nina. Et une femme vient vers moi et me dit mais quelle taille de pantalon avez-vous ? Puis à l'époque, au Mexique, ils arrivaient pas, il n'y avait pas le libre-échange. Donc je me suis dit, elle veut mon jeans. J'avais un Lewis, elle veut mon jeans. Je lui réponds, comme ça, c'était une nana qui avait l'air sympa. Puis en fait, elle me dit, mais je viens de me monter un défi. En fait, j'ai monté une agence de mannequins. On cherche des visages européens. J'ai un casting avec un client demain et j'ai personne. Vous avez des visages européens, venez. Moi, je me suis dit, bon, c'est super, quoi, c'est rigolo. J'y suis allée, puis ça a marché, en fait.
Donc, vous avez un visage européen du Sud, quand même. Hein.
Oui, mais à Mexico, ça...
Oui, vous avez l'air très européenne à Mexico. Parce que vous n'aviez pas dit tout à l'heure, Anne-Laure Sailly, c'est qu'en plus, elle est très belle. Dans le portrait.
Oui, c'est vrai, je me suis un peu attachée
à d'autres valeurs.
À d'autres valeurs que...
Bon, c'est pas une
idée. C'est vrai qu'elle est très belle.
Bon, c'est un hasard, tant mieux. Mais enfin, voilà, donc, mannequin. Mannequin. Et en même temps, mannequin certes, mais c'est aussi par ce travail du shooting, enfin j'en sais rien, ce que vous faites, du film, enfin tout ça, que vous découvrez le cinéma.
Alors absolument. À l'époque, j'écrivais, je dessinais pour mon plaisir, par besoin aussi. Et puis en fait, je me suis retrouvée sur un plateau cinéma et en regardant les réalisateurs travailler, je me suis dit, mais c'est génial ces gens-là. Ils font des storyboards, ils dessinent, ils sont libres, ils ont un mode de vie absolument passionnant. Et puis voilà, c'était ma porte d'entrée en fait dans ce métier.
Ce qui veut dire aussi que vous n'avez pas vu grand-chose de Lausanne Bouge.
Alors, toutes les premières manifestations, j'étais là, et puis je suis revenue. À un moment donné, je suis tombée malade au Mexique, j'ai eu besoin de revenir. Voilà, pour pour faire des contrôles. Et je suis revenue au moment où le centre autonome était encore, encore en fonction.
Ouais.
Cabaret Orwell, etc.
Ouais,
donc
ouais,
j'ai fait
ouais.
des allers-retours comme ça. Mais c'est vrai que Lausanne bouge, j'ai pas tout vécu comme Thibault.
C'était rigolo, Cabaret Orwell, pour ceux qui n'ont pas connu.
Oui, c'était, enfin, rigolo, c'est pas le mot que j'y mettrais, parce qu'il y avait quand même une sacrée dose de colère, j'allais dire de désespoir. Il y avait aussi quelque chose dans ce mouvement qui était désespéré, hein. Les punks étaient nihilistes.
Oui.
Il y a beaucoup d'autodestruction, il y a beaucoup de violence quand même, là-dedans. Donc c'était pas rigolo,
pas
mais
rigolo.
C'était indispensable comme lieu. C'était un lieu de défoulement aussi, c'était un lieu de rencontre, c'était le premier lieu à Lausanne qu'on avait pour se rencontrer, pour exprimer quelque chose aussi. Les groupes de musique se montaient en deux jours, ils faisaient deux concerts. Mais
c'était pas de la musique très compliquée en même temps, le punk.
Mais,
hein.
mais défoulatoire et néanmoins créative.
Mm-hmm.
Hein, et ça, c'était intéressant de canaliser en fait cette colère dans quelque chose de constructif.
Pourquoi il a brûlé ?
Ah. Je sais pas. Pas tout dans le film, donc pas tout qui a une des protagonistes.
Vous
du
le dites
film.
À la fin, alors il y a plein de versions, hein. Évidemment, la version des autorités, c'est qu'il a été fermé parce qu'il y avait de la drogue, etc., etc. Mais qui l'a brûlé?
Je sais
On
pas.
On sait pas.
Je sais pas. Je sais pas.
J'aime bien le dire, je sais pas quand. Tout est... Enfin, je sais, mais je vous le dirai pas.
Non, je sais pas. Sincèrement. Hein.
Maison de paille aussi, on sait pas trop qui.
Ouais.
Comment ça
disparaît.
Ouais.
Mm-hmm. C'est comme ça. Donc ces femmes du No Future, ce sont trois jeunes femmes, Charlotte, Sandra et Patou, qui toutes trois ont été punk dans ces années dont on parle à l'instant. Vous les rencontrez en 1996. Qu'est-ce que vous avez en tête en les filmant à cette époque-là? Donc 15 ans après cette période punk, enfin, peut-être que ça a duré plus longtemps pour elle, j'en sais rien, mais une quinzaine d'années après les années 80, quoi.
Alors, l'idée du film m'est venue dans un concert à Paris, 2 ans avant ce tournage-là. En fait, j'étais dans un concert et dans la foule, j'ai vu une femme qui portait un perfecto sur lequel elle avait tagué dans le dos « No Future
mm-hmm. »
et elle avait un bébé dans les bras. C'est devenu d'ailleurs l'affiche du film,
l'image avec son
emblématique.
Bébé avec ses cheveux verts, elle avec
oui.
les cheveux bleus et
oui.
son
oui.
petit bébé
oui.
de quelques
et...
mois avec ouais. les cheveux verts.
Ouais. Elle était dans un concert en train de boire de la bière, de danser le pogo avec ce bébé dans les bras. Et c'est une image qui est extrêmement choquante, ouais. forte, et puis qui m'a ramenée à
Donc
ces années punk.
On est en 92, 93 là, 4 ou quelque chose comme ça.
On est juste avant le tournage du film, on est 2 ans avant le tournage ouais. du film, on est en 95.
Oui.
Puis en fait, c'est en voyant cette femme avec son bébé que je me dis, mais au fond, que sont devenues les punks lausannoises que je connaissais, qui étaient au cabaret Orwell?
Que vous croisiez, donc.
Que je croisais, certaines oui. étaient des copines.
Donc ces trois jeunes femmes que vous croisez, vous les avez rencontrées dans les années, dans les années
oui.
80,
oui,
vous
oui,
les connaissiez déjà?
Je les connaissais déjà, ouais. Ouais. Il y avait toute une mouvance punk au cabaret Orwell, et je les connaissais mm-hmm. relativement bien. Ouais. Donc la démarche là a été de retrouver les punks, les garçons aussi d'ailleurs, pas que les filles.
Mmh.
Mais le sujet, c'était vraiment comment on sort de l'autodestruction, qu'est-ce qu'on devient quand on a dit No Future, quand on a cru au No Future.
Quand on y a cru vraiment.
Futur, hein. Ouais. Et qu'est-ce qu'on s'en sort et comment est-ce qu'on s'en sort? Ça, c'était ma question.
Parce que la tentation, comme ça, en regardant de loin, quand on n'a pas été punk, quand on est, je sais pas, issu de famille bourgeoise et puis qu'on n'a pas de revendications particulières, c'est-à-dire quand on regarde ces mouvements-là, on se dit oui, en fait, ce sont des gosses de riches qui s'emmerdent un peu et puis qui le soir se font une crête, et puis qu'il le matin retourne au bureau ou retourne à l'école ou à l'université. C'est pas exactement ça.
Non.
Les punks, c'est pas ça.
C'est l'image qu'on en a maintenant, peut-être, quoique il y en a encore des purs et durs, mais non, le mouvement punk, c'était vraiment un mouvement nihiliste qui ne croyait pas du tout en un futur
et
possible
fort,
dans cette
et,
société-là.
Et très intensément
c'était incarné,
vécu.
C'était vécu, ouais. Et avec la certitude que personne ne survivrait à ses 20 ans.
Ouais, ouais.
Donc c'était extrêmement autodestructeur.
Avec le vrai risque encouru pour sa santé, pour sa vie même.
Absolument. Ouais, ouais. Ouais.
Alors ce sont trois destins qui, pour avoir été un temps commun, se sont en fait complètement dissociés. Et toutes les trois, en 96, sont des personnes totalement différentes. Est-ce qu'elles se croisent encore toutes les trois ou est-ce qu'elles se connaissaient? Non, c'est pas ça, il n'y a pas d'amitié là-dedans, on le sent bien d'ailleurs. Hein.
Alors je crois que quand on est dans la survie,
oui.
à un moment donné...
Il n'y a pas d'amis.
Il y a un besoin de s'isoler. Une des punkettes, là, justement, Sandra le dit très bien. Hein, au moment où elle a décidé de s'en sortir, elle a tout quitté.
Elle a tout lâché.
Elle s'est isolée, ouais. Elle a complètement changé ses activités. Elle a commencé à faire de la danse, de la peinture, enfin, tout à fait autre chose.
Mm-hmm.
Je pense que c'est un peu une condition. Hein. Notamment si on pense à l'héroïne ou à des drogues dures, on ne peut pas rester dans le même réseau d'amis.
Donc trois destins qui vraiment ont avancé très différemment, différentes évidemment aussi de ce qu'elles étaient, mais pas véritablement de ce qu'elles revendiquaient. Et chez toutes les trois reste quelque chose de cet ordre-là, qui par la musique, qui par un regard sur cette époque-là qui reste très tendre et plein de nostalgie, puis une autre qui s'en sort beaucoup plus difficilement.
Alors, Anne-Laure parlait tout à l'heure de lucidité, mais j'ai l'impression que derrière ces revendications, il n'y a pas de futur, ce nihilisme, il y avait une grande lucidité sur les dysfonctionnements de la société. Donc ce côté rebelle n'était pas vain, il était pensé, même s'il n'était pas accompagné d'un discours politique. Et c'est ce qu'on retrouve 15 ans plus tard chez elle, c'est que ça reste des personnes très engagées qui ont réussi à mettre des mots sur des revendications qui étaient plus vécues que verbalisées quand elles avaient 15-16 ans. Et ça reste, évidemment. Alors, ce qui, moi, m'a frappée en revoyant le film, c'est que deux d'entre elles le canalisent à travers l'art. Hein, c'est vraiment l'action créative, la musique, les collages, le graphisme, qui leur permet, à un moment donné, d'exprimer les choses et puis de
dériver cette colère et cette révolte et ce « no future » dans quelque chose de productif et de créatif.
Mais quand on voit les créations de Sandra, il y a un dessin animé qu'elle a réalisé dans le film, que j'ai intégré dans le film, sur l'œuvre de Guiguerre, ça reste très noir. Hein, très critique d'une société.
Et puis elle continue à faire une musique apparemment relativement décalée, avec des musiciens relativement déjantés, même si effectivement elle porte sur son visage une forme de sérénité saine.
Oui, hein. Un vrai rayonnement, hein. C'est quelqu'un qui
rayonne. Ah oui, alors totalement, oui. Puis qui parle extraordinairement bien de ces années-là, avec une justesse et une honnêteté parfaite. Mm-hmm. Mais toutes d'ailleurs, toutes sont d'une honnêteté extraordinaire.
Oui, j'ai trouvé aussi,
Pas grand-chose à perdre, en fait.
Non, et puis il y a une envie de partage.
Oui. Et puis, vous le dites, ce mouvement-là, je parlais tout à l'heure du réveil douloureux des années 80, mais c'est vrai, c'est-à-dire que ça annonce quelque chose qui est en marche, et ce sont les années 80 qui sont, à mon sens, les pires années du XXe siècle, très certainement, s'il fallait en choisir. Évidemment, il y a la guerre, évidemment, et tout ça, mais les années 80, c'est une catastrophe absolue. C'est l'éradication de tout espoir. C'est, voilà, vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance, donc, véritablement. Et puis, on voit bien que ça suit son chemin. non, mais c'est vrai, ça va pas bien. Enfin, très sincèrement, ça ne s'arrange pas. On va dans le mur, mais il faudrait qu'on y aille un peu plus vite, d'une certaine manière. C'est pour ça que je suis surprise que, 30 ans après, il n'y ait pas un mouvement de personnes comme ça, de gens, de fils d'eux, j'en sais rien, qui prennent les choses en main en disant il y a quelque chose qui va quand même pas très très bien. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? En 80, l'un des slogans de Lausanne Bouge, c'était « Nous ne sommes pas des cas sociaux ». Hein, enfin, il y a eu plein de choses, mais enfin, nous ne sommes pas des cas sociaux. Contrairement à ce que devaient penser, évidemment, les autorités et la bourgeoisie. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, vous montrez quand même trois cas sociaux. Malgré tout.
Bon, ensuite, c'est comment est-ce qu'on étiquette les choses, comment on les nomme. C'est sûr que quand on est à l'intérieur de
ce type assistante sociale, de problématique, je serai face à un cas social ou à deux ou trois cas sociaux.
Tout à fait. Mais on ne peut pas se définir ainsi en tant qu'adolescent. En pleine révolte.
Oui.
Même s'il y a de l'héroïne, même on n'est pas un cas social.
Même si les parents sont tous alcooliques, même, etc. Il y a une toile de fond qui est terrible.
Oui, je pensais beaucoup plus tard qu'on peut mettre ce type de mots sur un vécu. Mais pas à l'adolescence.
Ça dit, vous montrez aussi trois cas de résilience.
Magnifique d'ailleurs, parce qu'elles s'en sortent très très bien.
Ah, mais oui, absolument. Ouais. Vous les avez vues récemment, puisque vous sortez ce film en DVD?
Non, alors malheureusement pas. J'ai pas retrouvé. Alors j'ai cherché, bien sûr. Alors j'ai pas retrouvé Patou du tout. Donc Patou était en prison quand on a tourné le film. Donc ensuite, il y a eu, j'imagine.
C'est prison pour drogue, pour des choses comme ça.
Oui. Ouais. Donc il y a eu depuis, j'imagine, multiples changements d'adresse. Alors j'ai eu des nouvelles de Sandra tout à fait dernièrement, qui va très bien, qui vit à Zurich, qui bosse comme graphiste à la télévision. Mmh. Et Charlotte, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, il y a une année, deux ans, où elle continue son petit bonhomme de chemin avec son fils, son mari. Elle est à Fribourg. Elle a commencé un peu à s'engager socialement. Elle voulait faire de la prévention drogue dans les écoles. Voilà, mais l'événement est à créer. Moi, j'espère bien les retrouver et créer un événement.
20 ans plus tard.
Non, maintenant, en avril ou mai, oui. Voilà, pour ben, justement le vernissage du DVD ben, et puis les 30 ans de
15 ans plus tard,
on va le faire.
Voilà. Ouais. Ah bah oui,
hein, on va le faire si personne ne le fait.
J'espère que vous le ferez. On va écouter d'ailleurs un titre que vous avez suggéré, que je ne connaissais pas, sont les Young Gods, qui avaient écrit pour Charlotte.
Oui,
une chanson.
Oui, une chanson que j'aime énormément. Il y a un extrait d'ailleurs dans le film, oui. Femme du nos futurs, qu'ils avaient écrit tout spécialement pour Charlotte, puisque Charlotte avait monté un groupe punk qui s'appelait Charlotte et les Pans. Elle était très bien sur scène. Oui. Et puis elle avait beaucoup touché les Young Gods. Et voilà, ils étaient liés d'amitié avec elle et ils lui avaient offert cette chanson.
Charlotte.
Charlotte se touche, le ciel ouvre la bouche, et quand ses mains s'étendent, quand elle s'y attarde, tous les enfants regardent, et quand son
bien cette chanson.
Oui, j'adore.
Ah ouais, très bien cette chanson. Les punks continuent encore. Il y a quelque chose qui subsiste de tout ça?
Oui, mais...
Je pose la question à Anne-Laure, du coup.
Oui, mais simplement, c'est, je pense qu'effectivement, ça ne se restreint pas à l'étiquette punk. C'est des gens qui...
C'est une résistance.
Voilà, c'est un mouvement, c'est une résistance au libéralisme, à la xénophobie. Oui. À toute une série de inégalités, enfin, il y a tout un panier comme ça de, enfin c'est la boîte de Pandore.
Ouais.
Mais sans, on plaisantait pendant la chanson, sans qu'il s'agisse forcément de se grimer punk.
Il n'y a pas d'uniforme particulier.
Voilà, il peut y avoir une attitude punk sans. Voilà, sans la para.
Mmh. Oui, sans la provocation un peu adolescente, effectivement, de façade, même si derrière, il y a quelque chose de véritable.
Ça peut être aussi esthétique.
Oui. Avec vous nous citiez l'un des slogans des New Punk.
À Lausanne.
Oui.
Oui, c'est...
Allons-y.
Cultivons la subversion, subvertissons la culture.
Yes.
Il a fallu qu'on me le rappelle il y a quelques jours, mais...
Voilà. Vous auriez pu l'une et l'autre appartenir à un mouvement de ce type-là, vous, Denise Gillian?
Moi, j'aime pas les uniformes,
bon.
Donc j'aurais eu beaucoup de mal, voilà. Enfin, pour moi, ça aurait été me déguiser.
Vous l'étiez dans l'esprit pu, mais... Non, même pas, d'ailleurs.
Alors, c'était mes copains.
Le No
copains,
Future, sortais, ça vous disait quelque
ça
chose?
Ça me parlait, oui, oui.
Oui, tout de même.
Oui, ça me parlait, oui. Alors, c'était mes amis, on sortait ensemble, etc. Je sortais volontiers avec eux, enfin, j'avais pas de problème avec cette image-là ou ce type de provocation-là. Mais moi, me travestir, me déguiser ou afficher comme ça une appartenance, non.
Non.
J'en ai jamais eu le besoin. Puis je suis quelqu'un de très timide, donc... Ça m'aurait...
C'est vrai?
Oui, ça m'aurait gêné d'attirer les regards de cette façon-là.
Bah justement, une fois qu'on est masqué, on a beaucoup moins peur.
Et
on
peut-être, je n'ai pas essayé.
Denis Gignon, vous avez entamé des études de cinéma, non pas au Mexique, mais en Italie. Pourquoi vous aimiez particulièrement le cinéma italien? Je ne sais pas, vous aviez pour...
Non, pas du tout, mais je n'avais pas de bac. J'avais pas,
ah, c'est bien avec classe, vous pouviez. Mais vous parliez aussi bien italien qu'espagnol?
Non, j'ai appris l'italien pour aller à l'école de cinéma.
Ah oui.
Il y avait deux écoles, en fait, en Europe qui permettaient d'entrer sur concours, en fait. Voilà. Sans le bac, il y en avait une à Paris et puis il y en avait une en Italie. Et Nina, avec qui je voyageais, était rentrée en Europe avant moi. Et elle faisait une école d'histoire de l'art à Florence. Oui. Donc moi, quand je suis rentrée, il y avait une école de cinéma à Florence, j'ai rejoint Nina.
Puis fatalement, je ne sais pas pourquoi ce devrait être fatal d'ailleurs, mais enfin, vous revenez en Suisse. Pourquoi on revient en Suisse d'ailleurs? Moi, parce que c'est votre pays, pourquoi on revient?
C'était une histoire d'amour. Oh. Une histoire d'amour, ouais. Qui s'est terminée.
Évidemment, vous croyez quoi?
C'est vraiment ça, quoi.
Ouais. Ah oui, c'est ça, bah tant pis. Donc vous vous retrouvez là. et puis dans des carrières un peu particulières, il faut toujours un moment de bascule. Le vôtre, apparemment, c'est une campagne de prévention du sida. Ça veut dire que, bon, je ne sais pas, vous avez 22, 23, 24 ans, quelque chose comme ça. Vous n'aviez, même à Mexico, jamais été confronté à la souffrance, à l'exclusion, à des choses comme ça. Il a fallu cette campagne, ce moment-là, pour activer quelque chose de chez vous, d'important et d'urgent.
Alors je dirais, j'ai grandi avec, dans la mesure où j'ai deux parents qui sont complètement engagés socialement, très militants, tous les deux. Donc cette conscience de la souffrance humaine, je l'ai toujours eue. Au Mexique, bien sûr, j'étais confrontée beaucoup. Mais c'est en recevant cette commande de films de prévention du sida que tout d'un coup, j'ai pu m'approprier un acte militant, un acte social. C'était la première fois que moi, j'étais active dans ce mécanisme-là. Jusque-là, j'étais observatrice de quelque chose qui m'échappait, sur lequel j'avais aucune prise.
Et pas suiviste de vos parents, en tout cas.
Pas suiviste. Et finalement, j'ai adoré ça. Enfin, c'est vraiment à ce moment-là que s'est révélée cette face qui, après, me quitte plus, qui est ce plaisir, finalement, à l'engagement, à l'engagement social.
Et à partir de ce moment-là, vous vous engagez à donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, ou qui l'ont mal, ou dont l'image est troublée, salie, entachée.
Oui, j'aime aller dans les yeux, effectivement, dans les lieux où...
Les zones d'ombre, comme disent les articles. Mais c'est juste. C'est effectivement les zones d'ombre.
Oui, c'est ça. J'ai travaillé avec les chiffonniers Emmaüs, avec des détenus en prison,
avec des SDF, on va le voir, parce que je trouve effarant ce que vous avez pu faire. Donc, premier long métrage, vous l'avez dit, Mon père, cet ange maudit, un gangster peintre qui devient peintre en prison. Et la prison, vous y reviendrez donc pour une année, et puis pour ce magnifique projet, donc sorti en 2008, article 43, réalisé juste après la naissance de cette association. Anne-Laure Sailly, en 2005 ou 2006.
2006, officiellement.
À la suite de quel constat, parce que quand même, imaginez, alors on peut imaginer toutes sortes d'associations engagées, mais imaginez introduire la culture à l'intérieur des prisons, c'est quand même un peu tordu. C'est-à-dire qu'on pourrait dire introduire la culture un peu partout, là où on en a besoin. Non, spécifiquement les prisons. Pourquoi?
Alors, disons que... Moi, je me suis étonnée moi-même un jour face à ma non-connaissance et au peu d'interrogations que je m'étais faites sur la question de la prison.
Oui, mais enfin, on est beaucoup comme ça.
Et du coup, ça m'a un peu choquée. Je me suis dit, mais comment se fait-il que je me considérais comme quelqu'un d'engagé, etc. Comment se fait-il que j'ai été aussi indifférente à tout ça? Puis après, il est assez facile de répondre à cette question, c'est que tout est fait pour nous cacher
le sort véritable, l'existence véritable.
Et nous conforter dans notre somnolence habituelle, je dirais, pour caricaturer un peu. Moi, j'ai l'impression qu'on somnole tous dans un confort comme ça. Et tout est fait pour qu'on se pose pas trop de questions. En gros, ceux qui commettent un délit ou un crime qui trouble l'ordre public, voilà, on les cache.
Et puis, on les cache, on les emprisonne, disons.
Oui, mais on nous parle pas beaucoup de leur sort. C'est pour ça que là, en ce moment, il y a de nouveau tout un réseau qui s'organise pour simplement redynamiser l'information sur ce qui se passe à l'intérieur des prisons, réellement, et puis diffuser, médiatiser. C'est suite à l'affaire Skandervogt que tout ça a redémarré.
Bah, en quelques mots
des, bah, c'est les trois femmes qui faisaient partie du mouvement d'Action Prison, qui n'existe plus officiellement, Anne-Catherine Ménétret, Patricia Lain et...
Et ça reviendra.
La dame du petit bar.
Et la dame du petit bar.
Voilà.
Elle se reconnaîtra.
Non, mais qui ont proposé de réunir des groupes anti-répression ou des politiciens, quelques politiciens quand même, des représentants de ces commissions qui sont censés faire des visites en prison, etc. Pour vraiment simplement déjà réseauter, se transmettre l'information. Il y a un bulletin maintenant d'information aussi qui est le premier numéro en tout cas qui est paru. Sur la question, pour simplement, c'est ce qu'avec Prélude on essaye aussi de faire en diffusant les résultats des ateliers de création partagée qu'on réalise en prison, c'est vraiment de balancer tout ça sur la place publique et de dire bon ben on est tous vraiment concernés, c'est cette institution totale de disciplinaire, elle fonctionne pas. Elle n'a jamais tout à fait fonctionné. Elle est en désaccord avec ses propres principes. On n'a pas d'alternative à proposer, mais parlons-en. Et puis,
c'est ça, ça veut dire que vous remettez volontiers en question l'existence même de la prison et de cette forme de punition à l'adresse des petits, moyens et grands criminels.
Alors oui, bon, à titre, alors là, j'engage pas l'association,
privé, oui, oui.
À titre privé, je suis abolitionniste, mais sans
mais
avoir
sans
non plus,
avoir rien
absolument.
À proposer à la place.
Ouais. Non, parce que c'est pas ma mission à moi. De proposer
en attendant,
des
vous imaginez, enfin vous, oui,
oui, juste un des détenus filmés a dit quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Il disait au moment de l'arrestation, les premières années de l'incarcération sont positives parce que c'est un électrochoc. Hein, tout d'un coup, on se dit waouh, ok, on est obligé de s'arrêter.
Lui, 2 ans, 3 ans.
Bon,
on
lui avait dit 6 ans,
oui.
Voilà. Mais ensuite ça dépend, voilà, c'est très individuel, oui, ça. Oui. Mais ce premier électrochoc comme ça, du stop, maintenant on s'arrête, on prend le temps de réfléchir, etc., avait quelque chose pour lui de positif. Mm-hmm. Au-delà d'un certain temps, c'est complètement destructeur, parce qu'on ne nous nomme plus, on n'a plus aucune autonomie, on infantilise les gens, et je ne vois pas en quoi ça peut aider qui que ce soit à se réinsérer. Enfin,
Mais ça c'est une question que les gens ne se posent pas vraiment, c'est... On punit, on enferme, et après.
Ben, et après rien, effectivement, on réinsère peu, on forme peu ou voire pas, et on réinsère peu ou mal.
Voilà.
Et vous estimez l'une et l'autre que la culture, sous une forme, sous quelque forme que ce soit, la création, en tout cas, est un outil, j'allais dire de rédemption. On va effacer ce mot absolument immonde pour trouver autre chose, je sais pas exactement lequel, mais est un outil qui fonctionne en termes de réhabilitation déjà de sa propre estime.
Oui, on
vous l'avez constaté
souvent comme terminologie, la reconstruction identitaire.
Oui, merci, voilà, c'est mieux.
c'est plus...
Rédemption, c'est une horreur, voilà. On oublie.
Oui, ça, moi, c'est quelque chose que je défends fort. Alors, dans tous mes travaux, c'est justement en quoi est-ce que l'action créative peut permettre à quelqu'un de se remettre debout. Parce que dans l'acte de créer, il y a tout le processus, en fait, de dignité qui est en jeu, et de reconnaissance de qui on est et de comment on se met au monde, je dirais. Hein, parce qu'on doit aller chercher quelque chose en soi, on doit le mettre en forme, on doit l'offrir à un public et on doit recevoir le feedback de ce public. Dans ce processus-là, il y a se tenir debout.
Oui.
Hein, il y a être digne, être debout, être capable d'action.
Être capable de regarder les autres en face,
oui.
De leur répondre éventuellement,
oui,
de justifier ses choix.
Et... Mm-hmm. Oui. Donc ça, c'est vraiment la démarche de fond qu'on retrouve aussi dans tous mes films,
oui.
Dans l'association d'Anne-Laure.
Vous l'aviez particulièrement constaté, vraisemblablement, et là je trouve l'expérience fascinante, vous aviez à Paris suivi des sans-logis, enfin des SDF, des chômeurs aussi, réunis par une expérience théâtrale, à savoir monter, quel texte emblématique, Les bas-fonds de Gorky. Et j'ai l'impression que c'est vraiment à cette occasion que vous réalisez à quel point l'art a une action et une force formidable sur les êtres.
Alors je l'avais réalisé préalablement en prison avec Donadoni, qui était devenu peintre en prison, ce qui lui a permis de changer d'identité. Vraiment de quelqu'un de condamné à perpétuité, blâmé de tous les côtés. Il était devenu un peintre et du coup, il se présentait en tant que tel et ça l'avait vraiment... ça lui avait permis de sortir la tête de l'eau, de se remettre debout. Puis ensuite à Paris, alors j'ai eu la chance extraordinaire de suivre un atelier théâtre pendant un an, un atelier théâtre donné par Serge Sandor, où effectivement des sans-abri, à travers une expérimentation théâtrale, ont appris à être en lien, ce que vous citiez tout à l'heure, quoi, à mémoriser un texte, à le dire, à retrouver une hygiène corporelle, et puis ensuite à se présenter à un public, parce qu'ils ont quand même joué 10 soirs de suite sur la grande scène du Théâtre National de Chaillot, c'était pas rien.
C'est pas n'importe quoi, oui.
Et là, comme j'étais avec ma caméra pendant un an, j'ai pu suivre ce processus en fait, de métamorphose et de transformation. Et c'est vrai que ça a confirmé en fait ce que j'avais découvert avec Donadoni, à savoir que l'action culturelle, créative, est vraiment un outil de reconstruction identitaire.
Et tout ça a donné naissance à une association, encore une, Rebond d'art, c'est comme ça que vous dites ?
Oui, alors quand on...
Je ne vais pas dire rebond art.
Rebond d'art.
Rebond d'art.
Rebond d'art, comme rebondir à travers l'art.
À travers l'art, qui soutient donc des projets culturels réalisés avec des personnes...
Oui. Démunis, défavorisés, en situation de fragilité. Mmh. Ouais. Alors cette association, j'ai eu envie et besoin de la créer quand j'ai sorti le film Les Bas-fonds, parce que je me suis aperçue qu'en Suisse romande, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument aucun outil de travail qui permettait justement de faire de la peinture, du théâtre, de la musique avec des personnes abîmées par la vie. Puis j'ai eu envie de permettre ça. Et mon idée, c'était de lancer l'association et de plus m'en occuper.
Vous y êtes restée 4 ans
enfin... J'y suis restée 4 ans et je viens de reprendre la présidence. Donc,
bravo.
On n'a pas les bébés comme ça. Ouais.
Chasser le naturel, etc. Ouais. Quels sont les projets là ? Par exemple ?
Là, c'est rendre accessible la culture aux plus démunis. Ça veut dire qu'on fait de la distribution de billets spectacles gratuits sur l'idée qu'avait
cinéma
lancé
Coluche
à Paris à l'époque. Alors tout, théâtre, cinéma, concert, ce sont les lieux culturels qui nous offrent des billets qu'on redistribue en fait avec des personnes qui n'ont pas les moyens de se l'offrir ou qui n'ont pas l'idée. Que
parfois
le théâtre,
aussi,
voilà. C'est aussi souvent ça. Hein, ouais. C'est que...
Qui n'auraient même pas l'idée d'aller au
d'aller
théâtre.
D'aller au grand concert, au théâtre.
Qui ont d'autres priorités, à vrai dire.
Oui, qui sont dans la survie ou qui, sont... ou qui pensent que ce n'est pas pour elles, que c'est pour les bourgeois.
Ouais.
Il y a plein de gens qui ont très peur la première fois qu'ils vont à Vidi parce que tout
le
monde
est bien
habillé.
Mais il n'y a même pas besoin d'être démuni d'ailleurs.
Et souvent, il n'y a pas besoin d'être démuni.
Non, non, mais c'est vrai. Pour oser parfois se dire oh là là, je ne vais pas réussir, je ne vais pas comprendre, on va me regarder. Et les projets de prélude en ce moment ?
Alors, en ce moment, il y a le projet en cours, c'est un projet de musique improvisée à la colonie des établissements de la Plaine de l'Orbe, avec deux musiciens du coin, Emmanuel Dessouza et Benoît Moreau, qui sont vraiment actifs dans l'expérimentation sonore, l'improvisation. Et sinon, on est en train de préparer les prochains projets. Ce serait du théâtre du côté de Genève. Et puis, il y a toujours un grand chantier qui consiste à essayer de... Mais ça demande du temps, tout ça.
Et comment se porte le 2-21 ?
Le 2-21 va bien.
Entre tout ça ?
Il va bien, il réfléchit beaucoup.
À son avenir ?
À
son devenir ?
Voilà, exactement. Mmh. À ce vers quoi il va, que ce soit dans le contexte un peu turbulent... actuel par rapport aux conditions de travail, de création, etc.
Aux modifications de loi, aux révisions sur les assurances chômage et toutes ces choses-là.
Voilà, et on se demande vers quoi va la création, ce que les gens auront envie de nous dire encore, à nous et surtout au public après tout ça. Mm-hmm. Et puis nous, là-dedans, comment on va faire pour sauver notre âme.
En même on a toujours envie de se dire, les plus désespérés sont les champs les plus beaux, c'est que le désespoir, parce qu'en Suisse, le désespoir, faut quand même y aller. J'entends dans la création, on n'est pas dans le désespoir, mais qu'une forme d'inconfort, d'instabilité, et donc de colère, peut susciter des mouvements et des créations peut-être un peu différentes.
On espère.
Même si c'est triste de devoir le constater et le dire, mais après tout,
Oui,
je comptez pense sur la colère.
On espère que ça pourrait péter, mais c'est vrai qu'il y a, quand même eu un... Je pense quand même qu'il y a dans le...
C'est une rebelle.
Oui, c'est une rebelle.
Ouais, son frère, elle attend le grand soir.
Il y a des jours comme ça. Oui. Si je suis optimiste. Non, mais on peut espérer effectivement qu'il se passe quelque chose, mais je pense qu'il y a, quand même eu une forme de... Enfin...
Faites attention à ce que vous dites. N'allez pas vous mettre à mal tout de suite avec vos autorités tutélaires.
Non, mais je suis sûre que ça va, ça va. Ça va. Ça va être super.
Voilà. Là, on peut dire que vous avez été parfaite.
Optimisme.
Denis Gignot, vous avez toujours dit, enfin toujours, j'en sais rien, mais enfin, j'ai lu quelque part en tout cas, et vous l'avez dit, que vous ne feriez jamais de cinéma de fiction, que le réel et épaule, enfin caméra sur l'épaule, vous offrait bien plus que tout ce que l'imaginaire pouvait inventer. Et pourtant, vous travaillez en ce moment même à un film de fiction.
Ah oui, alors j'ai pas souvenir d'avoir dit ça. Ça a dû m'échapper.
Je vous retrouverai l'article.
Désinvolture.
Oui.
Non, en fait, moi, j'aime la fiction. Je suis très attirée par la fiction. J'ai choisi ce métier d'abord pour la fiction. J'étais fascinée par les rêves, en fait. Ouais. Puis je me demandais si on pouvait mettre en scène ses rêves et toucher les autres autant
avec
qu'on est soi-même
rêves,
touché.
Ouais. Ouais,
dans
ses
propres rêves. Donc non, j'aime beaucoup la fiction.
Ah bon.
Je suis, ouais.
Mais enfin, vous n'en aviez pas fait jusque-là.
Non, et j'en ai toujours pas fait. Là, j'en ai eu.
Ah non, je pensais à Au Trouble.
Oui, elle est écrite.
Ah. Ouais. Il faut la tourner maintenant.
Maintenant, il faut la financer d'abord. Ouais.
Gémellité et schizophrénie.
Ouais, gémellité et schizophrénie.
Donc, c'est vous qui avez écrit le scénario,
oui,
l'histoire.
Oui, en collaboration avec une scénariste que j'aime énormément, Julie Gilbert, qui est à Genève. On a écrit à quatre mains.
Et puis, alors, vous toujours le documentaire, évidemment, et le sujet de l'un de vos prochains documentaires, c'est le médiumnisme, enfin les médiums, le phénomène médium. Mais c'est franchement en rupture avec ce que vous faites d'habitude, enfin, le documentaire social.
Oui, alors c'est vrai que ça s'écarte un peu de mon travail habituel. J'ai fait cependant déjà un documentaire en 2001 sur cette thématique-là qui s'appelait « Aux frontières de la mort », sur les expériences de mort imminente, les ND. Oui. Et ça a été en fait l'accès pour moi à toute une réflexion sur notre devenir à tous, notre avenir.
On n'est plus dans
le très long devenir.
Ouais. Notre fin ou notre éternité.
Et la médiumnité, en fait, c'est la suite d'aux frontières de la mort, finalement. C'est de se dire, bon, bah, ok, si on accepte la délocalisation de la conscience, la survie de l'âme après la mort, alors que devient-on? Est-ce qu'on peut parler à nos défunts? Et comment ça se passe, quoi? Donc, c'est une sorte d'enquête sur le phénomène de la médiumnité
et
de rencontre avec une médium, Céline Boson.
Et ce sera diffusé dans Temps Présent?
Alors, c'est une coproduction avec Temps Présent.
Oui,
oui. Maintenant, il faut que le film soit terminé pour être sûr que ce sera diffusé dans cette case-là.
Et vous êtes en train d'y travailler.
Et j'y travaille ardemment.
Vous êtes au montage.
Ouais.
Où est-ce qu'on trouve Femme du No Future ou du No Future, comme on voudra?
Alors, il est en vente en ligne à suissedvdshop.ch et artfilm.ch.
D'accord. Bon, tout ça sera en lien, de toute façon, sur le site de l'émission.
Très bien.
Et moi, j'étais pas là en 80, mais il y a énormément de personnes qui ont vécu de près ou de loin ces événements, en adhésion ou en résistance d'ailleurs, en contre-résistance. Ça vaut le coup de voir ces images, de voir d'abord ces trois femmes sont très belles, sont très fortes. Et puis, ça vaut le coup de se rappeler, peut-être que ça pourrait réveiller un peu de, espèce de petit nerf comme ça, sur lequel on pourrait appuyer et puis qui réveillerait quelque chose. Merci infiniment à toutes les deux. Je voulais quand même savoir ce qui se passait au 2/21 là, en ce moment.
Alors ce week-end, à partir de ce soir jusqu'à dimanche, il y a un spectacle de la compagnie Le Mesureur. C'est un Yon Foss violet.
Oui.
Donc qui retrace.
Nous avons reçu ici même
la pub.
Le metteur en scène, je crois.
Ah oui, c'est juste, c'est vrai.
Benoît Blanpin.
Oui,
exact.
C'est juste. Et puis en février, on a deux festivals musicaux. L'un programmé par l'association Eustache et l'autre par l'association Rue du Nord.
Parfait.
Là, justement, les musiques improvisées.
Parfait, continuez.
Ça va être super, venez.
Oui. Merci à toutes les deux. Merci Denise Gillian.
Merci
Anne Lancel.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Mes amis font l'amour. Mes amis dorment seuls. Mes mes amis disent des choses, mes amis les oublient. Tour à tour, mes amis réussissent, mes amis sont perdus, mes amis se suicident, mes amis se marient. Tour à tour, mes amis font n'importe quoi, mais sans moi. Mes amis se rencontrent, mes amis se séparent, mes amis font des gosses, mes amis font du sport. Tour à tour, mes amis font n'importe quoi, mais sans moi. Mes amis font n'importe quoi, mais sans moi.
C'est la fin de cette émission préparée avec les collaborations de Stéphanie Gauthier pour la production, de Stéphanie Jovanovic pour les choix musicaux et de Jean-Claude Gailly pour la réalisation. Après les informations drôles d'histoire, choisies et racontées le jeudi soir par Karine Delphini. Très belle soirée à tous, on se retrouvera demain. Vous écoutez la première, il est 21h.